France Info.
Sur fond de mobilisation agricole qui se poursuit dans la crise de la dermatose, la Commission européenne annonce le report de la signature de l'accord commercial très contesté entre les 27 et les pays du Mercosur. Dans le sud-ouest, des axes routiers étaient encore coupés par des agriculteurs hier soir. On va y revenir. De l'uranium exploité par la France en Afrique au Niger, va-t-il se retrouver en Russie? Le parquet de Paris ouvre une enquête et c'est une information France Info. Et le football avec l'affiche du jour dans les 32e de finale de la Coupe de France. Un derby du Nord lance le leader de la Ligue 1 face à son voisin Feigny Aulnois, club de 4e division. Cette fois, c'est reporté. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce que la signature de l'accord commercial avec les pays d'Amérique du Sud du Mercosur ne sera finalement pas avant le mois prochain. Annonce faite en marge du sommet des 27 à Bruxelles cette nuit. Pour Emmanuel Macron, qui salue cette décision, il est trop tôt pour dire si la France pourra accepter cet accord en janvier. Accord qui cristallise en partie la colère agricole. Le chef de l'État demande que les avancées réclamées par la France se concrétisent pour que le texte change de nature. Dans le sud-ouest, 5 autoroutes étaient encore hier soir partiellement ou totalement fermées en raison des mobilisations agricoles dans la crise de la dermatose, des actions qui compliquent le quotidien des habitants, ce qui ne les empêche pas de soutenir les agriculteurs. Exemple pour France Info, à Villefranche de Lauragais, entre Toulouse et Carcassonne, avec Julie Marais-Lecomte.
Sur le pare-brise arrière de sa voiture, Laurence affiche sa sympathie pour le mouvement. Cette enseignante a scotché un bout de carton. Dessus, elle a écrit « Soutien aux agriculteurs ».
Voilà, on a une belle agriculture, on a un beau patrimoine, on a un bel artisanat et on laisse tout partir. J'ai vu ce qui se passait pour Brandt. Moi, je veux bien aller faire Noël sur l'autoroute avec les agriculteurs. J'ai encore la foi en ça. Les gens râlent, mais sans réfléchir. En fait.
Ça va créer des soucis, parce que les camionneurs, les livraisons, ça va pas le faire très longtemps, ça aussi.
Dans la grande rue, des poids lourds roulent par choc contre par choc. Embouteillage continue quand les agriculteurs tiennent leur barrage.
Si on ne connaît pas les petites routes, moi, mon beau-fils, il a mis 3 heures pour rentrer chez lui.
Je fais un peu plus de route pour éviter les autoroutes. Oui, mais c'est pas très grave, ça. Non, mais si c'est fermé, j'amènerai même des croissants aux agriculteurs pour leur dire « tenez bon ».
Ce sont des gens qui se lèvent tous les matins très tôt, qui se couchent tous les soirs très tard, qui nous nourrissent. Voilà, enfin, soutenons nos agriculteurs, ouais, bien sûr.
Ce matin, Sébastien Lecornu reçoit les syndicats.
Il n'y a que lui qui va pouvoir ouvrir les négociations.
Et ce que les gens disent ici, c'est que c'est au Premier ministre de proposer une sortie de crise.
Julie Marie Lecomte à Villefranche de Lauragais. Les autorités annoncent par ailleurs une accélération majeure de la campagne de vaccination des bovins contre la dermatose nodulaire dans le sud-ouest. Le préfet chargé de coordonner ce dossier a supervisé la réception de doses de vaccins qui sont acheminées dans toute l'Occitanie. La possible suspension en France de Shein va se décider aujourd'hui. Le tribunal judiciaire de Paris se prononce cet après-midi sur la demande de l'État de suspendre pour 3 mois la plateforme du géant chinois de l'e-commerce. Mesure demandée par l'État après avoir constaté que la plateforme vendait des poupées sexuelles à l'apparence de fillettes, des armes de catégorie A et des médicaments interdits. France Info, il est 5h03. De l'uranium qui était exploité par la France en Afrique va-t-il se retrouver en Russie pour alimenter des centrales nucléaires? Scénario qui inquiète après la nationalisation des gisements par le régime militaire au Niger, au nom, selon lui, du droit légitime du pays à exploiter ses richesses. 1000 tonnes d'uranium se retrouvent dans la nature. C'était exploité avant par le groupe Orano, ex-Areva, avec une facture de plus de 160 millions d'euros. Et c'est une information France Info. Le parquet de Paris a ouvert une enquête qui est menée par la DGSI, le service de renseignement, qui s'occupe notamment des risques d'ingérence et de la protection du patrimoine économique français. Les explications de Yannick Falt.
Selon nos informations confirmées par le parquet de Paris, l'enquête a été ouverte au mois d'août après une plainte déposée par Orano, enquête pour vol en bande organisée dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère. Vu la sensibilité du sujet, les investigations sont donc confiées à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Au cœur de l'enquête, 1000 tonnes de concentré d'uranium aux mains de la junte militaire, de l'uranium civil qui était exploité par Orano sur le site d'Arlit au nord du Niger. Mais le groupe français a été exploité expropriée, le marché nationalisé par le régime qui cherche désormais à vendre l'uranium à l'étranger. Seule la Russie a manifesté un intérêt et seule la Russie peut l'exploiter selon une source au fait du dossier. Alors que toujours selon nos informations, après avoir été déplacé en camion sous escorte de l'armée, l'uranium se trouve désormais à Niamey, la capitale du Niger, en vue d'un transfert possible vers le Togo en passant par le Burkina Faso, scénario qui donne des sueurs froides aux spécialistes de la région, certaines zones étant aux mains d'Al-Qaïda.
Yannick Falt, les dirigeants européens ont trouvé un accord cette nuit pour débloquer 90 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine pour 2026 et 2027 sur la base d'un emprunt pour soutenir l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Les chefs d'État et de gouvernement ont été réunis en sommet à Bruxelles avec l'objectif de trouver une solution pour financer l'Ukraine pour les deux prochaines années. L'option privilégiée par l'Allemagne et la Commission, celle de s'appuyer sur les avoirs russes gelés en Europe, a été finalement écartée après 4 heures de sommet. C'est une tradition en Russie, ça s'appelle le bilan de l'année avec Vladimir Poutine. Le président russe donne aujourd'hui sa grande conférence de presse annuelle à Moscou, événement en Russie. Les médias ne parlent que de ça en affichant même le compte à rebours. Exercice typiquement russe, suivi dans le monde entier ces dernières années en raison de l'invasion de l'Ukraine. Mais en sera-t-il vraiment question ? Sans doute, mais peut-être pas prioritairement. Le Kremlin a d'autres objectifs aujourd'hui à Moscou pour France Info, Sylvain Tronchet.
Cette année encore, la conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine sera couplée avec un autre incontournable de la vie politique russe, ligne directe. Les Russes peuvent poser directement une question au président. Le Kremlin affirmait hier que plus de 2 millions de questions étaient déjà arrivées, que toutes seraient traitées par les services de la présidence et que la majorité parlait du coût de la vie, de la qualité des soins, du montant des retraites. Aujourd'hui, Vladimir Poutine tentera à nouveau de renvoyer l'image d'un pays normal, à peine perturbé par une guerre qu'il appelle toujours opération spéciale. Pour autant, et notamment parce qu'il y aura des journalistes étrangers dans la salle, le chef du Kremlin parlera évidemment de l'Ukraine. Mais que pourrait-il dire, sinon réaffirmer ce qu'il disait avant-hier encore quand il traitait les dirigeants européens de porcelets, en réaffirmant qu'il obtiendrait par la force ce que les négociations ne semblaient pas prêtes à lui offrir. Ces derniers jours, les dirigeants russes avaient même plutôt tendance à faire dans la surenchère en matière de revendications territoriales.
Sylvain Tronchet à Moscou pour France Info. Il est 5h07, le football avec l'affiche qui fait vibrer le nord de la France. L'Entente Feigny-Aulnois, club de National 2, équivalent de la 4e division, affronte son voisin ce soir, Lens. C'est l'un des matchs du jour dans les 32e de finale de la Coupe de France. Lens, l'actuel leader de la Ligue 1. Et le ski alpin, la première descente de la semaine à Val Gardena en Italie, a été remportée hier par Marco Odermatt. Il remporte la 50e victoire de sa carrière en Coupe du Monde à égalité avec la légende italienne Alberto Tomba. Marco Odermatt qui sera sans aucun doute la star des Jeux Olympiques en février à Milan Cortina d'Ampezzo. Guillaume Batin.
Les journalistes suisses qui commentent les exploits de Marco Odermatt sont toujours impressionnés. Laurent Morel du site internet Ski Actu.
C'est un fin technicien, il a un ski que personne n'est capable de reproduire, il arrive toujours à garder ses skis dans la ligne de pente comme personne, il travaille comme un fou. À mon avis, c'est que le début finalement de sa carrière d'une certaine manière. Et il a que 28 ans.
Alain Thévaud de la télévision suisse romande.
Ça paraît tellement facile et c'est aussi tellement beau, il y avait un peu Hirscher qui était aussi comme ça, l'équilibriste, on pense qu'il va partir à la faute, il arrive à se reprendre et je dirais ça c'est aussi Marco Odermatt.
Et les skieurs français aussi sont fans et admiratifs de Marco Odermatt, Nils Allègre et Adrien Théo.
Bon, il est hors norme, hein. Je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire mais pourquoi les autres ne le battent pas, mais il est à la limite, mais tout passe, il a un matériel je pense qui est excellent, qui est réglé au millimètre pour lui, et ouais, il se trompe pas quoi.
Alberto Tomba, c'était un de mes idoles, voilà, il y avait Luc Alphand, Alberto Tomba, quand j'étais petit, et voilà, il égale ce que fait Alberto Tomba, et Alberto Tomba c'est un mythe, donc c'est très fort.
Les Suisses disent de lui qu'il a la classe et l'envergure, qu'il est un parfait ambassadeur de leur pays. Voilà pourquoi il est surnommé là-bas le nouveau Roger Federer.
Guillaume Batin, vous écoutez France Info, il est 5h09, la première tendance météo de ce vendredi, c'est avec Christine Peña. Christine, un temps maussade, mais toujours dans la douceur.
Oui, toujours. Alors des pluies fortes hein, sur le sud du pays, vers le Languedoc. Et puis, nous avons cette douceur, pas de gelée encore ce matin. La température la plus basse, c'est pour Mulhouse, 4 degrés. Le plus doux, c'est pour Biarritz, Toulon, Montpellier, avec 15 degrés. On a pas mal de 12 degrés relevés là ce matin par Météo France. À Lyon, à Paris, il fait 12 degrés, comme à Bourges, à Ajaccio également 12 degrés, à Clermont-Ferrand, à Nîmes, à Bordeaux, à Cognac, à Abbeville, à Lille et à Tours, 12 degrés ce matin.
Vous écoutez France Info, il est 5h09.